Voilà. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Merci Anne pour ce témoignage qui, pendant que tu parlais, je me suis dit, je veux faire une petite digression parce que je trouve que tu nous as introduit dans quelque chose de très très important. Bienvenue à celles qui nous rejoignent juste maintenant. On redémarre là où on en était à midi. Alors voilà, ben vous allez prendre le train en route, mais j'espère que les choses vont être compréhensibles. Donc je retrace un tout petit peu le chemin qu'on a fait en disant, voilà, s'aimer, l'amour n'est pas une option. L'amour, c'est un commandement. Sa source, elle est en Dieu, puisque Dieu lui-même est amour, et que cet amour se nourrit, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la Trinité, puisqu'il y a de l'amour qui circule entre eux, et que dans ce sens-là, premièrement, Dieu aime lui-même, et que de cet amour, évidemment, découle un amour infini pour toute la création, toutes les créatures, qu'elles soient célestes ou terrestre. Voilà, en quatre phrases, le résumé de 2 heures ce matin. Si jamais, voilà, c'était le mieux que je puisse faire. Je voudrais, en t'écoutant, Anne, j'avais envie d'ouvrir une petite parenthèse, puisque c'est votre première rencontre sur cette question de l'amour. Et qu'il me semble comprendre que c'est important de poser un certain nombre d'éléments comme ça dans le chemin qui va être le vôtre. J'ai été profondément touché, je ne sais pas vous mesdames, mais moi j'ai été profondément touché lorsque j'ai entendu Anne qui nous dit, voilà, je téléphone à mon équipe de prière. Et mon équipe de prière me dit, il faut que tu parles en langue, il faut que tu proclames en langue dans la chambre. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Anne a dit. Elle a dit, Seigneur, comment je vais faire ça? Elle n'a pas dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Elle n'a pas dit, oulala, 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 ça me paraît vraiment bizarre. Oh, elle aurait dit ça plus élégamment, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Elle n'a pas négocié avec Dieu. Elle a dit, comment est-ce que ça va être possible? Comment je vais pouvoir faire ça? Et ça m'a fait écho au comment cela serait possible de Marie, à qui Dieu est en train de dire. Tu vas être enceinte. Voyez? On oublie un peu, hein, dans notre monde, moi je suis un pasteur réformé, on fréquente toutes sortes d'églises, voilà. On oublie un peu, nous les réformés, Marie, dans son obéissance, dans le prototype qu'elle est de l'humain visité par l'Esprit Saint au point d'en être enceinte. Enceinte. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il me semble, et c'est intéressant parce que on en parlait ce matin au petit déjeuner avec Monique, il nous semble qu'il y a un parallèle à faire entre l'amour, l'obéissance et l'autorité. Alors là, j'ouvre une parenthèse et j'avance sans notes. Donc pardonnez-moi si je suis un petit peu brouillon. L'amour vient du ciel. C'est le titre de ce qu'on a choisi pour aujourd'hui. L'obéissance aussi vient du ciel. Notre capacité d'obéir est rendue active, possible, à cause de l'obéissance du Christ, qui a obéi le premier. Et de la même manière, notre autorité sur ce monde vient de l'autorité de Dieu sur nous. Et ça va ensemble. Si on enlève un des éléments de amour, autorité et obéissance, alors ça commence à coincer. Une autorité sans amour, c'est de l'autoritarisme. Voyez ? Une obéissance sans amour, c'est de la servilité. Mais un amour sans autorité et sans obéissance, eh bien, il manque de cette dimension dont on parlait ce matin, cette dimension virile, c'est-à-dire cette dimension d'impact sur le monde. Dans le sens que l'amour que Dieu nous donne pour ce monde, ce n'est pas un amour, encore une fois, on l'a dit ce matin, d'opérette, de romantisme, etc. C'est un amour incisif, c'est un amour puissant, c'est un amour qui va impacter ce monde. Et quand j'imaginais Anne, et je ne sais pas pourquoi, je t'imaginais frêle, dans cette chambre d'hôpital, en train d'obéir à ce Dieu qui t'a donné de l'amour et qui a déployé au travers de toi une autorité, eh ben je me disais, voilà, on a un exemple concret de la manière dont l'amour de Dieu impacte ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, ça demanderait encore un long développement, certainement. Ça demanderait certainement encore de creuser ça bibliquement. Mais je suis convaincu qu'il y a un lien spirituel important entre autorité, obéissance et amour. Je pense que c'est une clé quand on comprend ça. Il y a une clé pour aimer. Moi, j'ai grandi, alors je vais vous partager un petit peu deux, trois choses, mais j'ai grandi dans une église, l'église réformée à Genève, j'habitais à Genève à l'époque, qui est une église, j'ai envie de dire, en tout cas à l'époque, dans ma paroisse, on était quand même beaucoup dans l'amour. Un peu comme je le disais au début, faut s'aimer, l'évangile c'est aimer, finalement... La mort et la résurrection, c'est pas très important. L'important, c'est d'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire, ce que je disais ce matin. Et moi, j'ai développé, comme adolescent, parce que jeune adolescent, dans un contexte comme ça, c'est un peu compliqué. On était un petit groupe, on était un grand groupe de jeunes. On avait vécu vraiment une conversion miraculeuse. Ça, il faut vous raconter une autre fois. Mais moi, j'ai développé une espèce d'allergie à l'amour. Vous voyez, cette espèce d'amour un peu mièvre, un peu plate, comme diraient nos amis québécois. Hein, c'est plate. C'est, ça n'a pas de relief, ça n'a pas de pointe, ça n'a pas de puissance. Insipide. Il y a quelque chose d'un peu presque morbide. On doit aimer. Il faut se répandre en amour, quoi. Et cette espèce d'allergie m'a poursuivi pendant très très longtemps. C'est-à-dire, moi, quand j'entendais une prédication sur l'amour, ben, quelque part, je fermais les écoutilles. Je me disais, bon, moi, ça, je connais, quoi. Et c'est relativement récemment où j'ai réalisé que l'amour que Dieu nous demande et a pour nous n'est pas cet amour-là. Et que c'est vraiment un amour qui prend sa racine dans toute la puissance de la Trinité. Je ne sais pas si on imagine la puissance de la Trinité. Vous avez, je ne sais pas si vous imaginez l'univers des fois. Si vous allez vous promener un peu sur Internet, vous trouverez passablement de petits films qui montrent la grandeur de l'univers. Hein, vous savez, on part de la Terre et puis on s'éloigne, puis on voit notre système solaire, puis après on voit la galaxie, puis après on voit, puis on s'éloigne. Puis on se rend compte que c'est juste gigantesque. Eh bien, c'est la propriété de notre Dieu. Vous voyez ? C'est la propriété de notre Dieu. Notre Dieu est puissant au point de l'avoir fabriqué. Et c'est un amour qui a cette puissance-là, qui circule dans la Trinité et qui de là coule dans l'univers tout entier. Dieu aime l'univers tout entier. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans les galaxies. Il y a des tas de gens qui cherchent à savoir. On n'en sait rien. Moi, comme mathématicien, j'ai quand même eu mes cours d'astronomie. Je veux dire, il faut quand même juste réaliser que beaucoup d'étoiles que nous voyons le soir, si merveilleuses, elles sont déjà éteintes. Simplement parce que la vitesse de la lumière, ce n'est pas assez rapide pour nous amener ça. Donc c'est juste énorme. On n'a aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que l'amour de Dieu pour l'univers tout entier ne s'épuise pas. Et que ce même amour est pour chacun d'entre nous. Il y a une dimension qui nous échappe complètement. Alors là, moi, ça m'intéresse cet amour-là. Et ça m'intéresse de pouvoir le manifester. Ça m'intéresse de pouvoir le démontrer. Ça m'intéresse de pouvoir impacter. Ça m'intéresse de pouvoir surprendre les gens dans un certain amour. Dans des petites choses. Comment est-ce que j'aime la caissière du supermarché ? Est-ce qu'il y a des dames caissières ici ? Il n'y en a pas ? Moi, avec Monique, on essaye, dans notre quotidien, de surprendre les gens dans l'amour. Vous voyez ? On aime quand ils nous regardent du genre. Là, on est content. On se dit, ouais ! Ça, c'est une bonne journée, vous voyez ? C'est intéressant. Comment est-ce que je peux aimer, mais pas ni. Aimer, bing. Avoir une parole qui percute. Pas du genre, êtes-vous prête à brûler en enfer, voyez, c'est pas très aimant ça, voyez. Mais quelque chose qui prend la personne et puis qui la met dans une autre dimension.
Juste un petit témoignage, oui, bien, pas de moi, mais
attention parce qu'il y a des fils partout.
De mes amis.
Attends, je te baisse un peu ce machin parce que quand même, faut qu'on t'entende.
Il y a quelque temps, on a donné une conférence sur justement une conférence sur l'honneur, sur la culture de l'honneur. Et puis, il y avait un petit groupe de participants qu'on avait encouragés au préalable et qui sont allés manger ensemble. Et puis, ils ont voulu mettre en pratique ce qu'ils avaient entendu le matin. Alors, ils sont allés manger au restaurant et ils se sont dit entre eux, ils étaient 4 ou 5, comment est-ce qu'on pourrait honorer la serveuse ? Alors, ils ont dit, on va la surprendre en lui donnant un pourboire exorbitant. En Suisse, on n'est pas obligé de donner un pourboire parce que le service est compris. Mais quand même, à la fin du repas, ils ont empilé un certain nombre de billets de francs suisses. Et puis ils ont dit à la caissière, ben, c'est pour vous. Elle n'y comprenait mais rien du tout. Alors, ils ont ajouté, vous voyez, Dieu est tellement bon avec nous, nous on a aussi envie de vous honorer, alors on a pensé qu'on pouvait vous donner, ce pourboire, enfin, voilà. Et puis alors, elle s'est mise à pleurer, et puis elle leur a dit, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Elle leur a raconté un petit bout de ce qu'elle était en train de vivre avec un enfant malade, je crois, un enfant très malade et qui, à cause de cette situation, l'avait mise aussi dans une situation financière vraiment très difficile. Et ce geste de générosité l'a comme mise en contact avec la générosité de Dieu et la bonté de Dieu. Et elle a été profondément touchée.
Amen. Amen.
Voilà.
C'est beau.
Et il me semble que si on comprend que ce genre de geste, et puis on peut en inventer plein d'autres, hein, je vous en raconterai un autre tout à l'heure, c'est des toutes petites choses. Mais c'est des toutes petites choses que je vais chercher dans cet immense amour de Dieu. C'est-à-dire que c'est des petites choses, mais elles viennent avec de la pression. sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si certains d'entre vous ont fait de l'hydrodynamique. C'est beau l'hydrodynamique, vous voyez, c'est la théorie des fluides. C'est passionnant. Mais l'hydrodynamique, non mais c'est facile à comprendre. Plus vous prenez un tuyau petit et que vous mettez un débit constant dedans, plus vous diminuez le tuyau, plus ça gicle loin. C'est facile l'hydrodynamique, hein? Pas très compliqué. Alors, c'est des toutes petites choses, mais qui prennent leur essence tellement haut que ça sort avec pression. Et que c'est comme ce que Anne a vécu. Parler en langue dans une chambre d'hôpital, c'est rien. Je veux dire, c'est dur à faire. Non, mais je veux dire, c'est des sons, c'est des cordes vocales qui s'agitent. C'est rien en tant que tel. C'est difficile à faire, mais c'est rien en tant que tel. Mais quand c'est branché sur l'amour et l'autorité de Dieu, alors ça devient quelque chose qui sort avec pression. Ça ne veut pas dire que ça sort en criant. Ça dit juste qu'il y a de la pression. Vous saisissez ? De l'impact. Je me souviens une fois aussi, on était dans un magasin, et puis voilà, on était en train de faire nos commissions, hein, bêtement. Et puis il y avait une dame du magasin, une vendeuse, qui était en train de ranger des paquets de céréales dans le rayon tout en bas. Vous voyez, le rayon qui est tout en bas des trucs. Donc elle était à genoux, la tête au niveau du sol, quasiment, en train de ranger ses rayons, alors que tous les gens passe debout avec des caddies. Donc elle était au niveau des roues des caddies à peu près. Enfin, vous voyez. Donc moi, je la vois, je me dis, mais c'est une position, mais c'est humiliant. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne range pas ces rayons quand il n'y a pas les acheteurs? Enfin, je trouvais ça humiliant. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais enfin, vous pouvez imaginer la position. Alors je m'arrête, et puis elle lève le regard comme ça. Puis, bon, moi je suis grand, c'est un peu embêtant dans une situation, mais je me penche un peu, puis je dis, en tout cas, c'est vraiment magnifique comme vous rangez ces boîtes, ça donne vraiment envie de les acheter, merci beaucoup de faire ça. Monique n'aime pas la conclusion, alors je ne vais pas la dire, si je vais la dire quand même.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Non. Je vais respecter ma femme.
Tu peux le dire autrement.
Comment je peux dire ça autrement, chérie? Ah, elle était très surprise. Vraiment, il y a quelque chose qui l'a touchée. C'est rien du tout de dire ça à quelqu'un. C'est pas extraordinaire. Mais si vous le dites en étant branché sur la Trinité, vous allez impacter le monde. Et moi, c'est ça que j'aimerais vraiment vous encourager à faire, c'est de réaliser que l'amour vient du ciel. Et que c'est comme ça qu'on va petit à petit, bonjour, bienvenue, c'est comme ça petit à petit qu'on va toucher ce monde et le transformer. Donc l'amour est fondamental, c'est un commandement, il est au cœur du plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour ce monde. C'est comme ça qu'il veut que nous vivions nos différences, que nous vivions nos relations, avec tout ce que ça implique de difficultés, avec tout ce que ça implique de croissance, tout ce que ça implique de sanctification de notre part et de cheminement. Et l'ennemi, lui, vous savez, je ne sais plus qui a dit, quand l'ennemi n'arrive plus à nous retenir, alors il nous pousse. Et l'ennemi, il s'est emparé de la notion d'amour, et puis il l'a tordu, d'une certaine manière. Alors, je vous fais pas trop de dessins sur les torsions de l'amour, il suffit juste de regarder un tout petit peu autour de vous, et puis de vous rendre compte quand même que c'est ahurissant la manière dont on utilise le mot « amour » aujourd'hui. Quand nous, on a utilisé le mot « honneur » pour le titre de notre livre, il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, mais quand même, l'honneur, ça fait penser à des crimes d'honneur, ça fait penser à des trucs et des machins, vous auriez pu prendre autre chose. » Je dis « Oui, mais si on avait pris amour, ça vous fait penser à quoi dans notre société ?» Je veux dire, quand on réalise à quel point l'amour est dénaturé, à quel point il a perdu son autorité, sa beauté et sa valeur. Absolument. Alors j'aimerais regarder avec vous une parole biblique encore à propos de l'amour avant de continuer un petit bout plus loin. Quand on demande à Jésus, pour vous montrer comment le diable tord les choses, hein, quand on demande à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Vous vous souvenez ce qu'il répond? Joli, joli, on l'a tous, hein? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis l'évangile de Luc, parce que les trois évangiles synoptiques rapportent ce passage, Luc y rajoute la force encore. On sent que Luc, il est médecin, puis le corps a de l'importance pour lui, hein? Donc il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et puis après Jésus dit, et il y en a un deuxième ou un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit bout là-dessus. Est-ce que vous avez déjà tellement pris soin de quelqu'un que vous vous êtes épuisé? Ça arrive? Ok. Est-ce que vous avez tellement pris soin de quelqu'un que vous avez pris sur vous les responsabilités qui lui incombaient? Je vois des gens qui font comme ça. Ça veut dire que vous avez usé envers de quelqu'un d'un amour qui vous a vidé. Ça veut dire que quelque part, vous ne vous êtes pas aimé. Hein, on a vu que la puissance de l'amour de Dieu vient du fait que le premier objet de l'amour de Dieu, c'est Dieu. Et c'est parce que c'est ce premier objet que son amour ne peut pas s'épuiser. C'est une source infinie d'amour et qu'à partir de là, ça coule. Ce que je décris là, c'est une des ruses principales de l'ennemi. Quand il ne peut pas nous retenir, il nous pousse. C'est-à-dire qu'il nous met dans une relation avec des gens qui fait que nous commençons à nous oublier nous-mêmes. Nous commençons à ne plus nous aimer, nous commençons à disparaître au profit de l'autre, à ne plus prendre soin de nous. Alors je reviens maintenant au commandement. Quand Jésus dit « il y en a un deuxième qui lui est semblable », qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que c'est le même ou est-ce qu'il veut dire qu'il lui ressemble? Qui lui ressemble. Vous pouvez aller voir dans le texte grec, c'est pas marqué « il y en a un deuxième qui est le même », c'est marqué « il y en a un deuxième qui est semblable ». Semblable, ça ne veut pas dire pareil. On est d'accord? Hein? Vous pouvez être semblable à quelqu'un, mais vous n'êtes pas pareil. Donc Jésus est en train de dire « il y a deux commandements ». Ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Le premier, c'est que nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre être. Ça veut dire que nous sommes appelés à aimer Dieu sans limite. Et c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Nous sommes appelés à aimer Dieu sans limite. Pourquoi? Parce que lui, il est la source de cet amour, que c'est lui qui nous a choisis, d'une part, et d'autre part, parce que je peux donner à Dieu tout ce que j'ai, Dieu ne va jamais abuser de moi. Jamais. C'est-à-dire que Dieu ne va pas commencer à venir me prendre ce don. Comment dire ça, chérie, aide-moi. Dieu ne va pas commencer à venir me prendre.
Il
ne va pas venir me pomper. Voilà, vous comprenez le mot? Il ne va pas venir me vider. Dieu ne va pas abuser de moi. Jamais. Donc je
au
peux.
Au contraire, plus je l'aimerais, plus il me remplit.
Absolument.
Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire.
Il n'y a que Dieu qui peut. Tu as raison. Plus je l'aime, plus il me remplit. Oui. C'est pas plus il m'aime, hein.
Non.
C'est pas plus je l'aime, plus il m'aime, c'est plus je l'aime et plus je me remplis.
Un exemple de ça, c'est la louange.
Oui.
Plus on le loue avec tout notre cœur, avec tout notre être, et plus on est renouvelé, plus on est osé, tout fait l'expérience.
Ça, c'est un des mystères du royaume. Il y a des choses dans le royaume de Dieu qui ne marchent pas comme sur terre. Sur terre, quand vous avez fait un bon repas, vous avez plus faim. Vous êtes d'accord?
Oui.
Okay. Dans le royaume de Dieu, plus on mange, plus on en veut. Pourquoi? Parce qu'on goûte, et puis c'est bon, et puis ça nous demande d'en avoir encore plus. La présence de Dieu, c'est ça. Plus je goûte, plus j'en veux. C'est le contraire de... Ça ne marche pas comme sur terre. Sur terre, plus je mange, plus je suis malade. Enfin, ça dépend quoi. Donc, je reviens à mes amours. On peut donner à Dieu la totalité de notre être. Parce que lui ne va jamais nous vider de notre substance. Quand je m'occupe de mon prochain, c'est pas tout à fait la même chose. Dieu dit, quand tu aimes ton prochain, eh bien, il y a un cadre. Et le cadre, c'est comme toi-même. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des gens à qui il faut prêcher pas plus que toi-même. Vous voyez, ça, c'est ceux qui ont tendance à se vider comme ça, hein, au profit des autres. Et puis, il y en a d'autres à qui il faut prêcher pas moins. Hein, comme toi-même, pas plus, pas moins. Et comme je disais ce matin, ça ne veut pas dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour enfin pouvoir aimer les autres, parce qu'à ce moment-là, on passe son temps à s'aimer son nombril, puis on n'aime plus les autres. Ce n'est pas ça. C'est juste le cadre. Dieu dit, l'amour que tu vas donner à ton prochain, je le mets dans un cadre. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez des relations saines. Et que si tu commences à donner à ton prochain au-delà de ce que tu es, la relation n'est plus saine. La relation devient, toxique. Toxique. C'est ce que les psychologues ont découvert depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et qu'ils appellent la codépendance. Dieu l'avait prévu il y a déjà 2000 ans hein, qu'il en parle. Nous, on a trouvé il y a 40 ans. Mais c'est bien, au moins on a trouvé. Et puis, il ne faut pas qu'on se moque, parce que l'Église, sans les psychologues, on n'aurait pas encore trouvé. Hein? Donc il faut aimer ceux qui cherchent et qui trouvent et qui étudient la création. Donc Dieu nous dit, il y a un amour pour Dieu, il y a un amour pour le prochain. Et là c'est très important de réaliser que si je donne à mon prochain un amour sans limite, c'est-à-dire un amour dans lequel je me vide, je suis en train de donner à mon prochain un amour qui est réservé à Dieu. Ça va? Et quand on donne à quelqu'un ou à quelque chose un amour qui est réservé à Dieu, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Quand je donne à quelqu'un ou à quelque chose un amour réservé à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Donc maintenant qu'on voit, j'essaie de faire avec vous un cheminement, hein, on a cette source d'amour inépuisable dans le ciel, on a cette colonne de chute, j'ai envie de dire, de l'amour dans nos cœurs qui sort avec pression, mais avant de sortir avec pression, il est nécessaire que, à l'image de Dieu, nous réalisions quelle est notre valeur à nous et que cette valeur, nous ne la méprisions pas. Si je commence à mépriser cette valeur au point de tout donner à quelqu'un d'autre, de me vider pour l'autre, c'est pas OK. Ça va? La ruse de l'ennemi, c'est de dénaturer les choses. Et nous devons redonner leur nature correcte. L'amour vient du ciel. Et parce qu'il vient du ciel, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Alors encore une fois, il y a des gens à qui il faut prêcher pas plus. Et puis il y en a d'autres à qui il faut prêcher pas moins. Parce qu'on a aussi utilisé ce genre de verset pour justifier le fait que moi d'abord. Non, c'est pas moi d'abord. C'est moi en Dieu, j'aime. C'est pas moi d'abord. C'est moi en Dieu, j'aime. Alors, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que nous réalisons, parce qu'on a chanté ça tout à l'heure, hein, comment c'était le chant ? Tu t'es réjoui que je puisse t'aimer. Attends, c'est, comment c'était, toi qui connais bien tes chants ?
Oui, c'était pas c'est où là ?
Tu m'as choisi.
Tu m'as choisi. Et puis, à un moment donné, dans le chant, on dit que tu as, c'est comme on parle à la place de Dieu, enfin on parle à Dieu, on dit puis tu attendais que je puisse t'aimer, ou tu attendais les deux, de pouvoir m'aimer et que je puisse t'aimer. Vous vous souvenez du chant, hein? Je t'ai aimé, tu m'as, etc.
Tu rêvais du jour où tu
pourrais m'aimer. Puis le suivant, puisque tu as fait ça, Babel. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Puis après, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Voyez cette attente de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de rêver un événement que vous attendez? Voyez, on dit ah, j'en rêve. Ça vous arrive? Non? Moi, j'en ai plein. Hein, des listes. Demandez à ma femme, la pauvre. Moi, des trucs que je rêve d'avoir, de faire, de ceci, ça, j'en ai des montagnes.
J'adore ça.
Dieu, il rêve de ce moment où nous pourrons échanger l'amour avec lui. Il a tellement aimé la création qu'à chaque pas de la création, il vit que cela était bon. Vous vous souvenez?
Oui.
Et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon. Et puis au moment où c'est l'homme, et c'était très bon. Très bon. Ça ne veut pas dire, ouais, c'est réussi. C'était très bon. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est lié à la bonté. L'amour de Dieu est lié à la bonté. Je voudrais prendre avec vous un petit passage de l'Exode que on aime bien. Vous verrez si ça vous parle. C'est dans l'Exode 33, au verset 18.
Je crois qu'on l'avait déjà fait dans ce cadre-là.
On a déjà parlé ici, ça fait rien, j'en reparle. C'est, je ne veux pas développer tout le truc, c'est juste ça. Souvenez de cette prière de Moïse qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Vous souvenez de ça? Et la réponse de Dieu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse demande, fais-moi voir ta gloire, et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Est-ce que Dieu est en train de lui dire non? Est-ce que Dieu est en train de lui donner un lot de consolation? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que Dieu répond à la prière de Moïse. Parce que ce qu'on ne peut pas voir de Dieu, c'est sa face. Ça, c'est clair. Nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Ça, c'est clair. Mais la gloire que Moïse demande à voir, Dieu lui dit, je vais te la montrer. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. La bonté de Dieu, c'est sa gloire. Dieu est glorieusement bon. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est une déclinaison de l'amour. Voyez? La bonté, c'est une expression de l'amour. Être bon. On oublie un peu ça aujourd'hui, hein? Il y a des gens dont on dit « Ah, ça c'était quelqu'un de bon. » Mais on oublie un peu. La bonté de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, cette expression-là, c'est sa gloire. Dieu est rempli de gloire bonne ou de bonté glorieuse. Donc ça nous donne des signes, ça nous donne des indications sur comment est-ce que nous pouvons, nous, être des échos de son amour en étant glorieusement bon. Vous avez envie d'être glorieux ? Hein, on doit aller, ça c'est intéressant, on grandit, dit la Bible, de gloire en gloire. Alors on peut dire, ouais, les couronnes, les machins, les trucs, les récompenses dans le ciel, la gloire, etc. Ouais, c'est super, on se réjouit. On n'a aucune idée de comment ça va marcher. Hein. Si quelqu'un d'entre vous a l'impression d'avoir déjà 5 sur 6 dans le carnet, moi je ne sais pas. Ça, je m'en remets à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que dans ce monde, là, dans les années tant que je respire, dans les années qui me restent, je suis appelé à grandir de gloire en gloire, c'est-à-dire de bonté en bonté.
Et justement, j'allais vous poser la question. Quelle est la différence entre la gloire, la grâce et la bonté ?
C'est la même. Puisque quand Moïse demande à voir la gloire, Dieu lui dit « Je te montre ma bonté ». Il est bien entre... Alors bien sûr qu'il y a certaines, encore d'autres dimensions, hein, encore une fois. On parle de Dieu, mais mon Dieu, c'est le cas de le dire. Mais essayons de comprendre déjà des petits bouts. Je veux grandir de bonté en bonté. Comment je vais être bon ? Ce matin, je vous ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer ? Est-ce qu'il y a des gens pour qui j'ai de la peine à décider de pardonner ? Est-ce que vous vous souvenez ? Puis vous avez sûrement des petites images qui sont apparues dans votre tête. Comment est-ce que je peux aller de bonté en bonté avec ces gens-là ? Ça, c'est les questions.
Et sans exclure tous les autres.
Hein? Ah non, non, on peut être bon avec tout le monde. Mais on va déjà aller avec... voilà, en fait, tu m'as compris.
Ce que je veux dire, c'est que parmi nos plus proches et parmi ceux qu'on aime le plus, parce qu'ils font partie de notre
temps. Voilà.
On s'est un petit peu attardé à ceux qui sont difficiles à aimer ce matin. Mais parmi les gens les plus proches de nous, nos bien-aimés, il y a des moments où... voilà, c'est pas tout facile à aimer non plus. Alors déjà, on a un bon terrain d'exercice, ne serait-ce que dans nos couples, dans nos familles, avec nos collègues, même les plus faciles. Mais déjà là, c'est un bon terrain d'exercice.
Mais j'aime bien ce que tu dis. Comment est-ce que vous pouvez exercer la bonté envers vos plus proches ? Comment est-ce que tu peux exercer la bonté envers moi ?
C'est pas tellement la question. C'est plutôt comment je peux exercer la bonté envers toi ?
Ah oui, mais je voulais te suggérer la question. Je pense que c'est des choses qui peuvent paraître impossible. Et c'est pour ça qu'on voulait donner à cette journée comme premier titre l'amour qui vient du ciel. Parce que si je ne puisse pas dans le ciel, si je ne puisse pas en Dieu, c'est impossible. Mais en puisant en Dieu, c'est possible. Réellement possible. Tu vas en rajouter une ?
Il est où le ciel ?
Ah, très bien. En nous ?
Où est-ce qu'il est le ciel ?
Dans nos cœurs ?
Au milieu de nous ? Au milieu de nous ?
Parce qu'il s'est approché. Ouais.
En nous, bien sûr qu'il est en nous. On peut le dire, il est en nous. À partir du moment où on a accepté Christ dans nos vies, le Saint-Esprit habite en nous. Le ciel est en nous. Nous sommes comme une, nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes le, la porte du ciel, comme Jacob le dit quand il a la vision de l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent du ciel. Hein? Et il dit, c'est ici l'habitation de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Nous sommes des portes du ciel. Tout à l'heure, quand je vous ai donné cet exemple là, de mes amis qui ont été généreux, ils ont fonctionné comme la porte du ciel. À partir de l'amour de Dieu qui les habitait, eh ben, ils ont été généreux. Et ils ont été un relais entre... Alors moi, je montre en haut, mais à l'intérieur de nous, puisque Christ habite en nous, nous sommes une porte du ciel pour les autres. Je crois que c'est important de réaliser ça. Que le ciel, c'est pas seulement loin, mais c'est tout proche. C'est à l'intérieur de nous. Et qu'on a aussi à cultiver cet amour avec notre Père qui habite en nous. Et à partir de là, voilà. Aimer. Et c'est surnaturel. C'est pas nous qui le produisons. Mais on est en contact avec ça.
Voilà, je regarde l'heure, on a encore un petit moment, ça va. Donc, oui, madame.
Votre exemple de vos amis là, qui ont été très généreux, ils ont eu cette intuition-là. Puis quelquefois, on a des intuitions de ce genre-là, puis on croit qu'on va donner quelque chose. Puis on reçoit, alors eux ils ont reçu la surprise juste la veille de Noël à nouveau avec une caissière. Je lui dis, mais comment vous allez passer Noël, etc. Parce qu'elle me dit, oh, j'avais oublié quelque chose. Donc on commence à discuter. Je lui dis, et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, elle dit, je vais à Tamier avec mon ami, on va passer Noël chez les moines à Tamier. Puis elle me regarde, elle dit, vous connaissez? Mais je lui dis, mais c'est merveilleux. Puis on commence à discuter. Et en fait, de simplement de lui dire comment vous passez Noël, comme ça, bah, je vais dire de façon banale, mais j'ai reçu un cadeau magnifique parce qu'on a eu un échange de la valeur de Noël. Et c'était fou. Je l'ai raconté une autre fois. Parce que je trouve que c'est tellement chouette.
C'est magnifique. Je pense vraiment que c'est avec des choses aussi simples, mais branché sur Dieu, que l'Esprit impacte ce monde. Impacte ce monde. On a reçu dernièrement aussi, je le cherchais dans mon téléphone, un message d'amis qui nous communiquait un témoignage d'une de leurs amies. Je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas dans quelle boîte de communication. Il y a tellement de machins pour communiquer, on ne sait plus où on met les choses. Mais ce n'est pas grave. Et donc les amis de nos amis écrivaient en disant voilà, bon, elle dit j'ai lu votre livre, hein, c'est égal. Elle dit j'étais avec ma femme de ménage et puis celle-ci avait mal, je ne sais plus où, au dos, au genou, enfin je ne sais plus. Et puis elle dit avant, je lui aurais peut-être dit quelque chose, Dieu peut prendre soin de vous. Mais là, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et elle a prié. Et puis, elle dit, je l'ai vu se redresser. Donc, ça devait être le dos, je pense. Et elle termine son témoignage en disant, je me suis sentie puissante. Non pas les biscottos, et puis enfin, puis je manipule, pas du tout. Ça veut dire, j'ai cette petite phrase de rien du tout, est-ce que je peux prier pour vous? A réellement un impact sur ce monde. Et c'est comme ça qu'on fait reculer les ténèbres. Il faut réaliser qu'on fait reculer les ténèbres. Alors, c'est ce genre de choses-là qui sont vraiment très importantes à comprendre. Je vais dans un, je pense, soit le dernier, soit l'avant-dernier élément de la journée. Donc on a dit, cet amour, l'ennemi essaye de le tordre. Donc, à nous de faire attention, de rester dans les dimensions bibliques du cadre de l'amour, c'est-à-dire de ne pas oublier que c'est notre être à nous qui est là pour être lui-même à l'image de Dieu, ce canal de l'amour pour les autres. Une autre chose dont Jésus a parlé d'ailleurs, parce qu'il savait que c'était quelque chose qui allait aller contre l'amour, c'est la crainte. Et il a dit, l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi il dit ça? Pourquoi la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte? Parce que quand on y réfléchit, c'est bizarre comme phrase. Enfin, je veux dire, l'amour parfait bannit la crainte. Oui, on pourrait bien dire, si je suis parfaitement aimé, je crains plus rien. Je ne sais pas si ça marche exactement comme ça. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Dans notre vie, il y a trois types de craintes, en général, qui nous empoisonnent la vie. Et j'aimerais qu'on les regarde ensemble, parce que je pense que c'est important de dénoncer les choses. Une des premières craintes, enfin, moi j'ai appelé peur, mais quand on dit aux gens, est-ce que vous avez peur, ils disent, non, moi j'ai pas peur. Mais en fait, la crainte et la peur, c'est la même chose. Hein. Si je crains quelque chose, c'est que j'ai peur. Bon, alors, question de vocabulaire. Une des premières, enfin, la première des trois craintes, c'est la peur de manquer. La peur du manque empoisonne certainement la vie d'à peu près la moitié des gens. Pourquoi? Ben justement parce que nous sommes des êtres qui avons des besoins. Ça a été aujourd'hui démontré. Et notre difficulté, c'est de croire que nos besoins vont être satisfaits. Donc, comme on ne croit pas que nos besoins vont être satisfaits, eh ben, on entre dans un système où il nous faut absolument avoir suffisamment pour ne pas avoir de besoins. Et donc, on craint de manquer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manquer? Eh ben, toutes sortes de choses. Alors, le premier qui vient à l'esprit, c'est l'argent. La crainte de manquer d'argent. Mais il n'y a pas que ça. La crainte de manquer d'affection fait que certaines personnes sont des véritables pompes à affection. Ils veulent faire des réserves d'affection.
Ça va très bien avec les personnes qui donnent trop d'amour.
Oui, alors c'est des gens qui se rencontrent, hein, entre ceux qui dépassent le cadre de l'amour et ceux qui ont des besoins. Ça fait même des mariages, des fois.
Oui, mais c'est vrai.
On le dit, dans notre relation d'aide, on travaille avec des couples et on en voit. Hein. Mais ça fait aussi d'autres types de rencontres. Hein, ça. C'est des gens qui matchent très bien, et puis ça va pendant un moment, même peut-être quelques mois, quelques années, puis tout d'un coup, ça ne va plus. Parce que, justement, le cadre est dépassé et qu'un amour est donné qui n'est pas l'amour dans le cadre que Jésus a prévu. Donc, la peur de manquer, ça peut être la peur de manquer de relations. Moi, je suis très frappé de voir, et j'ai tendance à être dans ce piège-là, depuis qu'il y a Internet, vous savez, il y a des trucs genre Facebook, Instagram, ces machins, puis quand on met un truc sur Facebook, ben, il faut que les gens, ils likent, voyez? Et puis, on veut beaucoup de likes. Alors, nous, on a remarqué avec Monique, quand on met une pensée intelligente, comme on fait de temps en temps, tous les 15 jours, pour un article que vous pouvez retrouver grâce à la petite carte magique, on a entre 10 et 60 likes, voyez, sur 720 inscrits. On est content. Mais quand on met une photo de nous deux en train de faire un sourire, on a 120. Alors, on a tendance à mettre des photos de nous, parce que c'est bien d'avoir des likes. Il y a une soif d'être reconnu. Il y a une soif de relation. Il y a une soif et une crainte de manquer et d'avoir moins que les autres. Et ça, c'est une des craintes fondamentales. On va y revenir tout à l'heure. La deuxième des craintes, j'ai mis des guillemets, c'est la peur de ne pas en avoir pour son argent. Ça, vous pouvez le voir. C'est pas tellement la peur de manquer, mais si je paye un certain prix, il faut que ça en vaille la peine. Retour sur investissement. Alors, ça peut être de l'argent, mais de nouveau, ça peut être de l'affection.
Hein? Après tout ce que j'ai fait pour lui,
oui.
On en a encore eu un exemple, je ne sais plus, hier, de quelqu'un qui, après à peu près 30 ans, où il a donné sans limite, aujourd'hui dit, je ne comprends pas, après tout ce que j'ai fait pour eux, j'ai rien en retour.
Mmh.
Non, mais on peut comprendre, ça fatigue 30 ans où on donne au-delà du cadre.
Oui.
C'est ça le problème. 30 ans où je dépasse mes limites, 30 ans où je suis au-delà de ce que Dieu a prévu. Ça fatigue d'être au-delà de ce que Dieu a prévu. Je sais pas si mon corps est capable de faire aller mon vélo à 20 km/h pendant 35 km, parce que mon corps est fait comme ça, et puis que je veux le faire aller à 40 km/h pendant 100 km, je vais être épuisé. Ben ouais, c'est parce que c'est pas fait pour. Moi, je suis pas fait pour. Il y en a qui sont faits pour, moi, je suis pas fait pour.
Il y a des gens aussi qui vous manipulent.
Ah, il y a des gens qui nous manipulent.
Être comme ça aussi.
Ouais. Mais il y a aussi une manière de résister ou pas à la manipulation. On peut résister à la manipulation. On peut dire non, enfin, il y a des manières de faire. Ce n'est pas le but de la journée. Moi, je voudrais juste montrer comment l'amour qui vient du ciel nous permet de vaincre un certain nombre de choses. Donc la peur de ne pas en avoir pour son argent. Il m'en faut beaucoup. J'en dirai encore quelques mots tout à l'heure parce que je vais vous montrer un magnifique tableau très compliqué. Ensuite, la peur d'être vulnérable. C'est-à-dire, cette fois-ci, j'ai pas peur de manquer. J'ai pas peur d'investir à perte. Mais j'ai confiance dans ma richesse. C'est-à-dire que je ne montre pas de vulnérabilité. La peur d'être vulnérable. Ça peut être aussi dans les relations, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais à l'école, quand on était jeune, enfin, il y en a qui sont jeunes parmi nous, mais à l'école, quand on était jeune, il y avait les gens populaires et puis les gens moins populaires. Vous avez connu ça? Oui, il y a ceux, il suffisait, parmi les enfants ou les jeunes, il suffisait qu'ils entrent dans une pièce pour avoir 10 personnes autour d'eux qui leur causent. Et puis, il y en a d'autres, ils entraient dans une pièce, puis il se passait rien.
Ouais.
Les populaires et les moins populaires. Ouais. Hein? Eh bien, quelque part, les populaires, ils ont confiance dans leur popularité. Mais si, tout d'un coup, il y a une brèche dans la popularité, alors c'est la fin du monde. La crainte d'être vulnérable. La même chose avec les dons, avec les talents. Il faut que je me pousse un peu de temps en temps, hein, c'est ça. Faites-moi des signes et puis je vais faire. C'est la fin de la journée, c'est toi qui conduis, chérie, parce qu'il y a tout qui va être comme ça. Je suis juste en train d'oublier ce que je donnais, la dernière phrase.
Les talents.
Quand on est doué dans quelque chose, eh bien, on peut commencer à faire confiance à ses talents. Ah ouais? Mais si tout à coup, il y a quelqu'un qui a plus de talent que moi dans le domaine, je me sens tout d'un coup tout bête. Parce que je suis devenu vulnérable. Parce que je ne peux plus m'appuyer sur mon talent. Et puis vous pouvez continuer comme ça indéfiniment. La peur d'être... C'est les trois peurs fondamentales qu'on a pu montrer exister dans la population globalement. Et une fois qu'on a regardé ça, En théologie, spirituellement, on appelle ça l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que quelque part, on est pris... Alors je bouge un petit peu, je rebouge un petit peu, voilà. Et puis je parle comme ça en passant devant le micro, c'est vachement agréable. L'esprit de pauvreté, c'est cette attitude de notre esprit qui craint de manquer. ou qui s'appuie sur ses richesses, ou qui veut en avoir pour son investissement. L'esprit de pauvreté, c'est-à-dire c'est le contraire de la générosité. Quand on est dans ces trois peurs, c'est difficile d'être généreux. Ou alors, on est généreux, mais dans la deuxième peur, c'est-à-dire je suis généreux et j'espère que ça va me rapporter. Vous voyez ? Je te donne, mais tu m'oublies pas, hein ? Vous peut-être pas, mais moi je me connais, hein. Au fond de mon cœur, il y a des choses comme ça. Au fond de mon cœur, il y a des choses comme ça. Mais voilà, vous êtes sûrement nettement meilleur que moi. Alors j'aimerais juste regarder avec vous ces trois craintes, et puis après montrer comment l'amour vient bannir la crainte. Ça va si on fait ça encore ? Ça joue, Sylvie ? Alors, on va regarder les trois craintes. Je crois que je vais prendre le micro dans la main. Et puis comme ça, je peux m'éloigner un petit peu. C'est mieux, hein ?
Oui,
parfait. On va regarder les trois craintes dans leur rapport, tout d'abord aux choses, c'est-à-dire aux objets, dans mon rapport aux gens, dans mon rapport à moi-même, et puis dans mon rapport à Dieu. Comment est-ce que ces craintes touche ses rapports. Et tout ça, c'est de l'amour, hein? À part les choses, peut-être, et encore. Alors tout d'abord, la peur de manquer. Dans mon rapport aux choses, eh bien, il m'en faut beaucoup. Il m'en faut beaucoup. J'ai besoin de réserve. Je connais des gens qui veulent avoir des réserves dans différents domaines. Ça peut être les provisions. Je ne sais pas en France, mais en Suisse, on avait une loi, je ne sais pas si elle existe toujours, mais chaque ménage devait avoir ce qu'on appelle les provisions de guerre.
Oui, c'est vrai.
Oui, une réserve de guerre. Hein. C'était tant de kilos de sucre, de farine, de je ne sais plus quoi par personne, de savon. Ça. Bon, la crainte de manquer, qui peut être justifiée, mais la crainte de manquer. Donc en fait, il en faut beaucoup, et ce qui est important, c'est beaucoup pour le prix. J'ai mis le mot local, parce que globalement, quand j'ai peur de manquer, je suis assez renfermé sur mon côté ici, le côté local des choses. La peur de manquer par rapport aux gens, ben, c'est la peur d'être seul. Mon besoin, c'est d'être apprécié. J'aime pas être seul. Si je suis seul, je manque de relations aux gens. Par rapport à moi-même, si je crains de manquer, eh ben je bosse. Bosser, on dit en France ?
Oui. Oui.
Donc, ben, des fois, il y a des mots, ça joue. Des fois, il y a des mots en, voilà. En français suisse, qui est le meilleur des français, d'ailleurs, tout le monde le sait. On dit, voilà. Bosser. Bosser pourquoi ? Pour pouvoir se divertir. C'est-à-dire, c'est je bosse et je me divertis. Vous voyez ? Ça, c'est le rapport à moi-même. C'est comment je me traite. Tu bosses et tu te divertis. C'est la manière de gérer la peur de manquer. Et puis, par rapport à Dieu, eh bien, évidemment que Dieu peut me lâcher. Si je crains de manquer, c'est que je crois que Dieu peut me lâcher. Ça vous va ?
Oui.
Si je prends la deuxième, ne pas en avoir pour son argent, le rapport aux choses, c'est la qualité pour le prix. C'est plus beaucoup pour le prix, c'est la qualité pour le prix. Je suis d'accord de payer, mais il faut que ça vaille la peine. Et pour que ça vaille la peine, je suis d'accord d'aller voir ailleurs s'il y a mieux. Ah ben oui, hein. Ça paraît normal. Je vais vous raconter une histoire de mon enfance. Par rapport à... ici, beaucoup pour le prix. J'ai grandi dans une famille vraiment très modeste. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mon premier pantalon neuf, j'avais 12 ans quand je l'ai reçu. Vraiment, on faisait attention à chaque franc. Et je me souviens, j'étais gamin, je devais avoir, je ne sais pas, entre 5 et 7 ans, je ne me souviens pas exactement. Et un jour, je ne sais pas pour quelle raison, mon frère et moi, maman nous a appelés, et puis elle nous a donné à chacun 2 francs. Donc à peu près 2 euros. Hein. Et pour moi, c'était mais la fortune. J'avais jamais eu une pièce de 2 francs pour moi. Bon. Alors, maman a dit, ben, comme ça, vous pouvez vous acheter ce que vous voulez. Puis, moi, je me souviens encore, mon raisonnement, je me suis dit, ben, je vais aller au kiosque là-bas, et puis je vais aller voir ce que je peux avoir le plus pour 2 francs. Vous voyez? Parce que j'étais dans cet esprit de pauvreté.
Oui.
Parce qu'on m'avait appris qu'on peut manquer, que, etc., etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas juste d'être économe. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une crainte derrière. Alors, je me souviens, j'ai été au kiosque. Et puis, j'ai dit à la dame, voilà, j'ai 2 francs. Qu'est-ce que je peux avoir le plus pour 2 francs? Et puis, à l'époque, alors je vais faire un peu de publicité. Est-ce que vous connaissez les carambars?
Oui.
Ouais. À l'époque, les carambars, ça coûtait 5 centimes.
Oh, mais c'était pas cher.
Non. Donc, pour 2 francs, je pouvais en avoir 40.
Oula!
Ben oui, 5 centimes.
Oui, hein, oui.
De 40. Alors, j'ai demandé à la kiosquière, j'ai dit, ben, j'aimerais 40 carambars. Puis elle m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, ben, oui. Et je suis parti avec des carambars plein les poches. Et je me souviens que pendant quelques instants, j'étais devenu invulnérable. J'avais des réserves de carambars. Vous voyez ? Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben, pour manger 40 carambars, après, j'ai compris parce que.
Les dents.
Oh, c'est du boulot de manger 40 carambars. Mais ça, c'est un autre problème. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer un peu ce que ça peut être que cette crainte de manquer, cette espèce d'état d'esprit qui malheureusement est dû à notre monde. Et moi, j'en veux pas du tout à mes parents, mais on a grandi là-dedans et j'étais longtemps dans ma vie dans ce genre d'attitude-là. Et ça nous a même posé quelques problèmes dans notre mariage. Parce que moi, je suis arrivé dans la vie adulte avec ce genre de réflexe. Vous voyez ? Avec ce genre de réflexe. Puis, c'est pas tout simple pour une jeune épouse qui a un mari qui dit « Ouais, mais pour 2 francs, il faut 40 carambars par mois. » Vous voyez ? Bon, faut y aller. Bon, je continue. Ne pas en avoir pour son argent, le rapport aux gens, eh bien, le but, c'est pas simplement de ne pas être seul et d'être apprécié, mais cette fois-ci, on veut des relations qui en valent la peine. C'est-à-dire que les relations, il faut qu'elles sont subordonnées à la réussite de l'autre. Vous voyez, on veut des relations, comment dire ça, qui rapportent quelque chose, enfin, où c'est bien d'être en relation avec. Dans le premier là, ne pas être seul et être apprécié, ben, de la relation avec n'importe qui, pourvu que ce soit de la relation. Dans l'autre, on commence à trier, et puis à dire, je veux de la relation, mais il faut que ça en vaille la peine. Alors, on commence à trier un peu. Alors, on peut trier dans tous les domaines. Hein. Je vous promets que c'est... Regardez un petit peu autour de vous, vous verrez comment les gens trient leurs relations.
Oui.
C'est impressionnant. Et moi aussi, je trie mes relations. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai grandi avec la peur de manquer. Mais pour guérir, ben, j'ai passé là. Puis après, j'ai passé à la suivante. Puis après, enfin, j'ai pu être guéri. Et puis encore, j'ai mes rechutes. Hein, t'es d'accord, chouchou? De temps en temps, j'ai mes rechutes. Donc, subordonné à la réussite.
Il y a longtemps que t'as pas acheté de carambars.
Oui, c'est ce
ouais,
que
c'est vrai. Je n'entends pas.
On
n'a
pas de
carambars. Dans le rapport à moi-même, j'ai un très bon dentiste. Il coûte cher, mais ça vaut la peine.
Pour ton âge.
Voilà. Bon. Le rapport à moi-même, c'est plus bosser pour se divertir uniquement, mais c'est travailler pour réussir. Parce qu'il faut que ça vaille la peine. Je veux bien bosser, mais il faut que ça vaille la peine. C'est toujours ce réflexe. Je veux bien, mais il faut que ça vaille la peine. Mais il faut que ça vaille la peine. Dans le rapport à Dieu, si je fais juste, alors il ne me lâche pas. Donc ça vaut la peine de faire juste. Je veux bien faire juste parce que la récompense, c'est que Dieu ne me lâche pas. Ouais, mais ça, c'est théologiquement, c'est faux. Hein? C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Mais c'est ce qu'on croit au fond de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu encore ce genre de pensée de temps en temps, de vous dire, oulala, il m'arrive une catastrophe, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour vous? Ben, c'est ce genre de réflexe. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben, ça, c'est des pensées du monde, ce n'est pas des pensées du royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. La fausse confiance dans mes richesses, hein, c'est la peur d'être vulnérable, vous vous souvenez? Le rapport aux choses, c'est... Plus c'est cher, mieux c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette publicité. Nous, moi, enfin, on ne la voit plus depuis un certain temps, il faudra que je change d'exemple bientôt. Mais c'est une histoire de voiture. Hein, ça vous dit, tout de suite, la dame, elle sait. Hein, c'est un couple un petit peu, comme on dit, BCBG, comme ça, hein, qui arrive pour acheter une voiture de je ne sais plus quelle marque, c'est une marque du pays de l'Est. Et puis on les voit qu'ils partent avec, et puis lui il est très content, et puis elle, elle est aussi très contente, puis ils passent en ville, puis ils regardent par la fenêtre, puis les gens les regardent, alors ils sont très contents qu'on les regarde, et puis ils arrivent au garage, et puis ils disent, ah, elle nous intéresse beaucoup, combien elle coûte? Et puis le vendeur dit, je sais plus, je dis n'importe quoi, 15 000 euros, et puis ils disent, on va quand même pas payer si bon marché. Et puis ils partent. Ben, c'est exactement ça, vous voyez? À part ça, du point de vue publicitaire, c'est génial. Hein, le gars qui a trouvé cette pub, il est très très bon. Mais ça, c'est un autre problème. Hein, plus c'est cher, mieux c'est. Mais ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive. Il y a des fois, on dit non, à ce prix-là, ça ne doit pas être. Puis des fois, on a raison. Puis des fois, on n'a pas raison. Mais aussi dans la relation, hein, on va y venir, la relation aux gens, c'est subordonné au rang social. Plus tellement à la réussite, mais au rang social. Hein. Plus les gens sont socialement élevés, plus ça vaut la peine d'être en relation avec. Ben non. Ben non. Mais ma peur fait que je peux chercher des choses comme ça. Hein? Ou bien quand quelqu'un de socialement élevé s'intéresse à moi, ah, ça me fait tout d'un coup plaisir. Et quand je dis socialement élevé, je ne parle pas uniquement de la société. Moi, je veux vous confesser quelque chose. C'est enregistré, mais je veux vous confesser quelque chose. Vous savez, dans le ministère, il y a aussi des rangs. Je crois qu'il faut le dire. Il y a des gens qui ont des ministères modestes, dans des églises modestes, un peu cachées. Vous voyez? Puis il y a des gens qui ont des ministères intercontinentaux, qui parlent devant des foules de 10 000 personnes. Il y a des rangs. Et quand un de ces immenses ministères s'intéresse à ce que je fais, quelle est ma réaction? Est-ce qu'elle est la même que quand un des ministères les plus modestes s'intéresse à ce que je fais? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi je vous confesse que des fois, je me fais piéger. Alors, heureusement, on est deux. Et puis, on apprend à réagir. Puis Monique, elle est bonne gardienne à ce niveau-là.
C'est bien.
Et je lui suis très reconnaissant. Mais vous pouvez prendre ça dans votre travail, dans votre famille, oui. Dans l'église aussi. Dans l'église, il y a des gens populaires. Puis il y a des gens moins populaires.
Exactement.
Quand les populaires s'intéressent à moi, ça me fait la même chose que quand c'est un... Vous savez, celui qui est casse-pied et que personne ne veut. Oui. Puis lui, il s'approche de moi. Oh. Oh. Oui, c'est ça. Subordonné au rang social. Le rapport à moi-même, c'est de toute façon, je m'en sors. Parce que je m'appuie sur ma compétence. Je m'appuie sur ma richesse. Je m'appuie sur mes forces. Donc, je vais m'en sortir. Ça va? Et puis, le rapport à Dieu, c'est si Dieu me lâche, c'est pas trop grave puisque je me débrouille tout seul. Alors, on est bien d'accord qu'on est... Tout ça, c'est tordu. Hein? Je vous vois réagir, mais c'est, tout ça, c'est du tordu. On est bien d'accord. Ça va? Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté.
Ou d'orphelin.
Ou d'orphelin, on va y venir. L'esprit d'orphelin. Non pas que quand on est orphelin, on est mauvais, mais simplement le fait de ne pas bénéficier de la sécurité
De l'amour de Dieu.
De l'amour de Dieu ou de l'amour d'adulte fait qu'on développe ce genre de choses. Alors maintenant, si je prends l'esprit d'adoption, parce que la réponse de Dieu à l'esprit de pauvreté, c'est l'esprit d'adoption. Et l'adoption, c'est le geste d'amour par excellence. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que l'amour bannit la crainte. L'adoption bannit la pauvreté. Ça va ? Cette fois-ci, c'est plus la crainte de manquer, c'est plus la crainte de ne pas en avoir pour son argent, c'est plus la fausse confiance dans les richesses, mais cette fois-ci, on est dans le positif et on est dans la confiance et la générosité. J'ai confiance. Je suis généreux. Parce que ça va ensemble, confiance et générosité. Et je ne parle pas que d'argent. Je ne parle pas que d'argent. Je parle de temps, je parle de relations, je parle d'amour, je parle d'intérêt, je parle de toutes sortes de choses. Alors, dans le rapport aux choses, la beauté est importante. On appelle ça des fois aussi l'esprit de noblesse. Alors, je suis un petit peu en difficulté parce que je sais qu'en France, vous n'avez pas le même rapport à la noblesse que nous en Suisse. Vous, vous avez coupé la tête de vos rois. Bon, nous, on n'en a jamais eu. Hein, ouais. Mais nous, on n'en a jamais eu. Donc, c'est pas mieux. Hein. Mais simplement, quand on dit... Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Nous allons dans le royaume de Dieu. Nous parlons d'un royaume. Avec un roi. Donc, on est en train de parler de valeur, de noblesse. Mais de nouveau, l'ennemi qui aime bien tout salir et tout tordre, il a pris ce qu'on appelle la noblesse et puis il en a fait une tyrannie. Ce qui fait qu'on a développé une allergie à la noblesse. La noblesse de cœur, la noblesse aussi. Ouais. Bon, hein? Bon, on a fait... Et puis, vive la révolution, quoi. Alors, je ne dis pas que politiquement, c'était... Je ne parle pas de politique, hein? Je parle de l'état du cœur. Donc, on va en direction d'un royaume. Donc, on va être dans la noblesse et dans le royaume de Dieu. Je suis convaincu qu'il y a énormément de choses magnifiques.
Mais ce matin, on parlait de grandeur d'âme. Hein?
Oui. Grandeur d'âme, absolument.
Grandeur d'âme. Et quel est l'objet
de mon amour?
De mon amour.
Dans le ciel, je suis persuadé qu'il y a plein de choses magnifiques et inutiles. Juste belle. Pourquoi il y a ça là, Dieu? Ah, parce que c'est beau. Oui, mais quand même, il faudrait que ça en vaille la peine. Non, non, c'est juste beau. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont ce genre d'état d'esprit. Ils aiment les choses juste parce qu'elles sont belles. Pas besoin qu'elles soient utiles. Pas besoin d'en avoir suffisamment pour son argent. Pas besoin qu'elles me renforcent. Juste belle. Il y a des gens qui ont le sens de la décoration. Moi, je n'ai pas le sens de la décoration. 0000. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais il y a des gens, vous leur donnez 3 bouts de carton, 2 bouts de tissu, et puis ils vous font un machin complètement inutile, mais beau. Vous voyez ? Magnifique. Splendide. Je prends un exemple. Ce n'est pas une critique, hein ? On est d'accord, Sylvie. Ce n'est pas une critique. Hein ? Ça, c'est totalement inutile. Mais c'est beau. Ça, c'est la noblesse. Je peux mettre de l'inutile beau. Et il y en a plein dans le ciel. Vous voyez ? La beauté est importante, puis j'ai mis cosmique. Ben, j'avais envie qu'on se souvienne qu'on est les enfants du roi du cosmos. Ça va si on... Hein ? Vous êtes les filles, vous êtes les princesses du propriétaire du cosmos. Ça va ? Puis si je le dis en termes d'héritier, vous êtes les héritières du propriétaire du cosmos. Ça va ? Et puis si j'introduis une notion qu'il y a, pas, qu'il y a dans le ciel et qu'il n'y a pas sur la terre, pour hériter, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le propriétaire meure, pas dans le ciel. On est déjà héritier. Vous possédez le cosmos.
C'est beau.
C'est beau. On ne sait pas à quoi ça sert, les galaxies, les machins, on n'en a aucune idée, mais c'est beau. C'est tout. Bien, je continue parce que le temps passe. Le rapport aux gens, C'est plus des relations parce que c'est juste ensemble. C'est juste être ensemble. C'est être capable de ce que nous on appelle chercher l'or chez les gens. Voir la beauté dans le cœur de l'autre. Voir la beauté dans sa vie. Et puis, ce qui est un petit peu plus compliqué, se réjouir du succès des autres. Parce que comme on est ensemble, ton succès, c'est mon succès. Alors ça, c'est facile à dire quand ça ne nous touche pas trop près. Mais je vous donne juste un exemple parce qu'il faut qu'on réalise la force de ça. Moi, je suis converti depuis 1974. Ça va ?
Oui.
Il y a des bénédictions que je recherche depuis 1974. Et puis, de temps en temps, je vois des gens qui sont convertis depuis la semaine passée. Et eux, ils ont reçu la bénédiction que moi j'attends depuis 1974. Vous voyez ? Alors je vais me réjouir. Ouais, je me réjouis. Super. Ouais, mais celle-là, Seigneur, quand même. Vous voyez le risque. Donc c'est juste, c'est des petits détails, mais c'est pour dire. Dans la noblesse, dans l'adoption, on peut se réjouir de ce que les autres ont, indépendamment de ce que nous avons. Le rapport à soi-même, c'est connaître sa propre valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier objet de l'amour de Dieu, c'est Dieu. Parce qu'il ne peut aimer que ce qui est parfait en premier. Et il est le seul parfait. Ensuite, j'ai mis des mots un peu provocants. Jouir de la vie. Alors ça, on ne prêche pas souvent à l'église. Hein? Oui, mais la vie, c'est un cadeau de Dieu. Et est-ce que je dois passer ma vie à attendre le moment de ma mort pour être enfin
heureux,
avoir le droit de me réjouir? Ben non. Moi, j'ai envie de jouir de ma vie. J'ai pas envie de faire de ma vie une idole. Mais j'ai envie de jouir de ce que Dieu me donne.
Et c'est comme ça que je serai attirante pour les autres.
Ah ben oui, il y a des chances d'être attirant pour les autres. Parce que quand on dit aux autres, venez avec nous dans la foi, c'est génial. Puis qu'on est tout coincé, puis qu'on attend la mort, c'est pas très attirant quand même. Non mais c'est vrai. Je dépasse un peu le temps, ça va, Sylvie? Je me sens un peu... Je me lâche. Le chemin... Non, c'est pas vrai. La porte du royaume, c'est une porte étroite. C'est ce que nous dit la Bible. D'accord? Elle est étroite parce que la porte du royaume, c'est la croix. Et que passer par la croix, c'est étroit. C'est difficile. Ça demande de l'humilité. Ça demande de se convertir, ça demande la repentance. C'est étroit, on est d'accord? Mais c'est une porte. Il n'y a pas de raison de rester coincé dans la porte. C'est juste une porte pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est le royaume de Dieu. Alors, il y a des chrétiens, et moi j'en ai fait partie longtemps, on est coincé dans la porte. Puis on dit aux gens, venez vous réjouir avec nous, coincés dans la porte. Convertissez-vous, c'est super. Aïe, mon dos. Non, mais c'est une porte. Donc on la passe, cette porte. Elle est étroite, oui. Elle a coûté le prix de Jésus, oui. Elle est sérieuse, oui. Pas question de la dénigrer. Mais ce n'est qu'une porte. Ça va ? Jouir de la vie, être dans sa vocation. Dieu nous a appelés, chacun d'entre nous. Et si je peux être dans ma vocation, alors je vais jouir de ma vie. Et non pas de chercher désespérément le sens de ma vie, parce qu'il faudrait quand même que ce sens en vaille la peine. Et puis si je sacrifie, c'est nous on travaille au milieu d'une communauté de diaconesses, des femmes qui ont donné leur vie pour le célibat et la pauvreté pour le service de Dieu, des diaconesses protestantes. Mais moi, je trouve extraordinaire. Il n'y a pas une de ces femmes qui a dit « Je vais aller dans la pauvreté et le célibat parce que ça en vaudra la peine. » Elles ont été là parce que c'était leur vocation. Et c'est tout. Et puis le rapport à Dieu, on aime cette phrase, il est bon et de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Notre Dieu est un Dieu heureux. Même si des fois c'est dur, même s'il a certainement pleuré à la mort de Jésus. Mais ça n'enlève pas sa joie. La joie qui vient du ciel surpasse tout. Il est généreux et il est puissant pour ses enfants. Mon papa, c'est le roi du ciel.
Il est terrible pour ses ennemis.
Il est terrible pour ses ennemis.
Mon papa, c'est Dieu.
Waouh. Alors, c'est cet esprit. C'est cet esprit que Dieu nous donne. L'esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». C'est cet esprit qui est un des trois de la Trinité, qui vit de l'amour de la Trinité et qui nous communique l'acte le plus extraordinaire de l'amour, l'adoption. Quoi de plus aimant que l'adoption ? Et cet esprit nous adopte, et en nous adoptant, il va vaincre la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Je pense que ça vaut la peine qu'on dise ce genre. Alors, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire. On va s'arrêter là parce que j'aimerais qu'on ait du temps pour le partage et la prière. Parce que c'est bien gentil de se remplir la tête avec des choses, mais je crois que ça a été dit clairement, ça passe par la tête, puis il faut que ça descende, puis ça rentre dans le cœur, puis il faut que ça change des vies. Alors, moi, j'aimerais vous proposer... Alors, je suis en train de regarder, il est 3h30. On fait une petite pause. Et puis après, on va faire des groupes. On vous donnera une ou deux questions à débattre dans le groupe. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez déjà prier les unes pour les autres dans le groupe. Mais sur des choses concrètes, hein, moi, j'aimerais apprendre à aimer Monsieur Dupont qui m'enquiquine toute la journée. Ok, on veut prier pour ça. C'est pas, moi j'aimerais qu'on prie pour moi parce que j'y arrive pas. Non. Moi j'aimerais qu'on prie pour moi parce que je veux entrer là-dedans. Ça c'est important. Donc on va se donner ces éléments-là et puis on terminera tout à l'heure avec une conclusion et puis un temps de prière plus général. Alors pause maintenant. Merci, vous avez été juste attentifs, c'est extraordinaire. Je vous ai causé pendant des moments et des moments et puis vous avez été super chou. Merci beaucoup. Et puis à tout de suite. Pause.
C'est le dernier moment pour la librairie. Est-ce que je vais donc tout ranger?
Pour nous aussi, si jamais quelqu'un veut encore un des deux livres. Enfin non, nous ça peut aller jusqu'à 4h30 parce que nous on est généreux. Mais non. Mais non. Il n'y a que deux livres à ranger.
Je voulais juste vous rappeler aussi notre mode de fonctionnement par rapport à cette journée. Donc c'est une journée qui est ouverte à toutes, mais comme vous le savez, il y a des frais de fonctionnement. Voilà, donc si on nous a demandé combien on peut mettre, mettez selon votre cœur. Mais voilà, il y a la location de la salle, il y a, on bénit nos intervenants aussi. Voilà, donc il y a des frais. Donc si vous voulez, il y a une petite boîte ici et que chacune puisse voilà, ouvrir son cœur. Merci.
Mais c'est parce que je suis agitée.
On va tenir la porte ouverte un petit peu. N'hésitez pas à les prendre.
Oui, oui, oui.
Je vais vous écrire si c'était sur une carte. Il faut juste que je le retrouve parce que c'est
voilà. Merci beaucoup.
Vous voulez le copier ou pas?
Il y a un livre. Je veux bien le copier.
Voilà. Ça me rend service.
On a eu un peu de peine à prendre des notes. Ce tableau, il existe. Tu peux l'envoyer.
Je peux te l'envoyer. Ouais.
Tu me l'envoies? Parce que on commence sur une page,
puis
après tu
lis. Oui, 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 je sais.
Ah, il faut aussi que je fasse une annonce par rapport
ça,
à
ça, je peux t'envoyer.
Martinez. Où est-ce qu'on
vous avez déjà trouvé
là.
Parce que je crois que les gens se précipitent. Je vois si j'en ai encore.
J'ai résilié.
Ah, Vous étiez pasteur à Genève ?
Non, alors moi j'ai... Ma paroisse a été... Enfin j'ai eu deux paroisses, une à Lausanne et une au Mont-Saint-Lazare. Et aujourd'hui, alors on est avec les diaconesses de Saint-Louis. Et puis indépendant pour l'autre moitié, on est moitié-moitié. Non, mon frère était pasteur à Genève.
Ah, mais je sais bien qu'il avait ce nom de famille.
Mais il est décédé, Cédric, ouais. Il est décédé il y a déjà pas mal d'années. J'ai grandi à Genève, bien sûr. J'ai déménagé dans le canton de Vaud pour faire les études de théologie. Donc j'avais tout le temps un peu ça. Hein.
D'abord, parce que ses enfants de la paroisse, sur
l'Assemblée
épisode,
quand même,
aux Acacias, du temps où ça.
Avec
plein de projets, etc. C'était
un petit
trop tôt. Il y avait
un groupe de jeunes
aux Acacias. Oui, j'ai parlé de ma reine, de ma fille aînée, sont. Non, j'étais là. J'ai fait une chapelle des arts. Et puis, en fait, après. Elle s'appelle De Chêne, mais en fait on se réunit à Mérange il y a longtemps. Enfin, c'est-à-dire que c'est parti avec d'une part la Haute et puis d'autre part les couples mixtes.
Là, il y a un problème.